Vous écoutez
RMC. RMC, 4h30, 6h. Charles Matin.
Anaïs Castagna, Charles Magnin.
Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur RMC. Il est 4h26 et nous sommes en direct, évidemment. Mais oui, on ne vous lâche pas, enfin quoi que... Oui, on est là ce matin en direct, fidèle au poste, mais pour vous dire toute la vérité, il y a un petit parfum de vacances au sein de la rédaction parce que...
Il y a un gros parfum de vacances, Charles.
Oui, Anaïs, Géraldine, ça sent les vacances toutes les deux. Oui, Anaïs, ouais. Je suis sûr, Géraldine aussi. Hein.
Oui.
Oui, c'est ça, hein. Oui, ça commence à parler un peu de qu'est-ce que tu fais cet été et tout.
Oui, Charles aussi.
Mais, et moi aussi, ouais. Évidemment. Enfin, évidemment, oui, moi aussi, je vais me reposer un peu, mais on sera là la semaine prochaine, ça ne s'arrête pas sur RMC. Les Leftos, c'est Pierrick Bonneau qui vous accompagne la semaine prochaine. Sébastien Krebs sera là aussi pour, voilà, il y aura évidemment une matinale tous les matins en direct sur RMC tout l'été. L'actu ne s'arrête pas le matin. Et ce matin à 4h27, on a toujours chaud, on va le dire, Géraldine Demory. Bon, on rentre dans la phase de répit pour
alors,
certains.
Pour la moitié nord, oui, mais pour le sud, aucun répit. Hein. Ça continue et ça va chauffer encore très fort jusqu'à mardi prochain.
Bah, ça chauffe peut-être chez vous. Venez nous le dire ce matin, évidemment. Vous le savez, sur Direct Studio, sur l'appli RMC, envoyez-nous les températures. Racontez-nous aussi comment vous faites face à cette canicule. On va en reparler ce matin tout à l'heure dans le choix d'Anaïs. Mais il y a une question à la une ce matin, la question sur laquelle on vous attend. Elle fait suite à une petite phrase d'Emmanuel Macron. Et la question, elle est très simple. Faut-il durcir les règles de l'assurance chômage pour répondre à la pénurie de main-d'œuvre.
C'est en tout cas ce qu'a annoncé hier Emmanuel Macron lors de la traditionnelle interview du 14 juillet. Écoutez-le.
Donc je veux dès cet été que nous puissions avancer sur la réforme du travail. Il n'y a pas de fatalité. Il n'y a pas aujourd'hui un endroit en France où les gens ne vous disent pas « j'ai besoin de travail, je cherche des gens pour travailler ».
6 entreprises sur 10.
Partout. Et quand je me déplace, j'ai aujourd'hui des restaurateurs qui me disent oui. Je ne pourrais pas ouvrir le week-end parce que j'arrive pas à trouver de gens.
Et vous savez, il y a certaines personnes qui peut-être vous regardent aujourd'hui qui se disent non, c'est vrai que ce ne sont plus des métiers que je veux faire parce que ce sont des métiers trop durs. On commence trop tôt, on termine trop tard et on est trop mal payé. Est-ce que vous entendez ça?
Alors, s'ils peuvent trouver et aller vers un autre métier, je l'entends très bien. Si derrière la réponse c'est je vais bénéficier de la solidarité nationale pour réfléchir à ma vie,
oui.
J'ai du mal à l'entendre.
Petite phrase qui a fait réagir. Hein. Est-ce que les chômeurs profitent du système pour réfléchir à leur vie, comme le dit Emmanuel Macron? Bah, c'est vous qui allez nous le dire ce matin au 32-16. Est-ce qu'il faut mettre la pression sur les chômeurs, sur les demandeurs d'emploi pour répondre à la pénurie de main-d'œuvre? Est-ce que c'est ça la bonne solution? Une nouvelle réforme de l'assurance chômage? Est-ce qu'on est trop généreux avec l'assurance chômage? Est-ce qu'on est trop... Est-ce qu'il faut rendre le chômage moins attractif, pour le dire de manière encore plus provoque, pour répondre à la pénurie de main-d'œuvre? Comment donner plus envie à certains, peut-être, d'accepter certains emplois? C'est cette question qu'on va vous poser ce matin. Comment répondre à la pénurie de main-d'œuvre en France? C'est vous qui allez prendre la parole ce matin si vous cherchez à recruter en ce moment. Ou tiens, peut-être que vous êtes demandeur d'emploi. Est-ce que vous êtes... réceptif, concerné par la petite phrase d'Emmanuel Macron. Est-ce que vous profitez de l'assurance chômage pour réfléchir à votre vie, pour reprendre les mots d'Emmanuel Macron? Vous n'hésitez pas, le 32-16 est ouvert.
Et puis, on n'oublie pas évidemment tous nos rendez-vous ce matin dans la Story Sport, à 5h30 avec Cédric Dandeville. On va parler des Bleues ES du foot, qualifiées pour les quarts de finale de l'Euro. Elles ont battu la Belgique hier 2-1, mais Marie-Antoinette Katoto s'est blessée, on y reviendra. Dans mon choix, à 5h20, on parlera de la chaleur. Je vais vous donner des vrais bons conseils pour se rafraîchir, parce qu'on entend un petit peu tout et n'importe quoi ces derniers jours. Je vais tout vous dire.
Eh ben, on va avoir bien besoin de ces conseils, évidemment.
RMC, jusqu'à 6h. Charles Matin.
Anaïs Castagna. Charles Magnin.
4h42 sur RMC. Bon réveil à tous, direction la Gironde, où plus de 5000 hectares sont partis en fumée. 10 000 personnes ont dû être évacuées depuis mardi. Deux immenses incendies toujours pas fixés. Plus de 1000 pompiers mobilisés, 10 aéronefs encore ce matin. On va préciser que ces deux incendies, pour l'instant, heureusement, n'ont pas fait de victimes.
Oui, fort heureusement. Des flammes qui se rapprochent dangereusement des habitations. Hier, c'est un village de 4000 habitants. Cazaux, situé dans la commune de la Teste de Buch, qui a dû être évacué par mesure de précaution. Dans tout le département, vous allez l'entendre, la solidarité est en marche. Les habitants viennent en aide aux pompiers en leur apportant des boissons, de la nourriture. Reportage RMC de Réming.
Ils sont nombreux, ces habitants, à venir apporter du réconfort aux pompiers. Julien, par exemple, amène...
Un peu d'eau, du pain, des boissons énergisantes, tout ça.
Et un mot de soutien pour ceux qui se battent pour sa forêt.
Moi, je sais que je vis toute l'année ici, on passe beaucoup de temps dans cette forêt. En plus, on est juste derrière... Ouais, c'est triste, c'est chez nous, quoi.
Julien, rapidement rejoint par d'autres, comme Denis, qui vient lui aussi offrir boissons et gâteaux aux pompiers.
À notre petit niveau, on essaye de faire comme ça, on sait qu'il va y avoir pas mal de rotations. Et je pense qu'aujourd'hui, Ben les pompiers, ils en ont bien besoin.
Et les professionnels s'y mettent aussi. Stéphane Paye est restaurateur et tous les soirs, entre deux services, il prépare 450 sandwichs pour les pompiers. 2000 euros dépensés et un message à faire passer.
On est quand même dans un pays de plus en plus individualiste et égoïste. Et de voir effectivement des élans de générosité, c'est quand même très bien. Il faut simplement que ça dure parce que là, aujourd'hui, il y a beaucoup de fumée, tout le monde le voit. Ce feu-là, comme l'ont dit plusieurs pompiers, il y en a au minimum pour 15 jours, voire plus, avant d'arriver à une extinction totale. Donc, il faut savoir que la générosité, il faut qu'elle dure un peu longtemps dans ce cas-là.
Environ 500 pompiers se battent contre les flammes à la Teste de Buch. Des renforts sont encore attendus aujourd'hui.
Reportage Rémy Inc, et c'est touchant. C'est dans les moments les plus difficiles aussi que se révèle le plus beau
de l'humain.
Oui, tout simplement avec cette belle solidarité. Ça fait plaisir à entendre ce matin. On en a besoin. Analyse d'ailleurs, le département de la Gironde est évidemment placé en vigilance rouge incendie, tout comme plus au sud le département des Landes. Concrètement, vigilance rouge incendie, qu'est-ce que ça implique?
Alors, ça veut dire que des restrictions sont appliquées, interdiction de circuler et de stationner entre 14h et 22h sur les pistes forestières, les chemins ruraux et les sentiers, interdiction des activités d'exploitation forestière aux mêmes heures et interdiction des activités ludiques et sportives à l'exception de celles qui sont exercées sur les bases de loisirs et sur les plages aménagées. Il est aussi, Charles, interdit d'utiliser du feu, de fumer, de jeter des débris incandescents, de faire du camping et de tirer des feux d'artifice à 200 mètres d'un bois ou d'une forêt. Et hier, la préfète de Gironde a aussi demandé aux vacanciers de ne pas approcher le secteur de la dune du Pilat adossée à la forêt et fermée au public.
Ouais, c'est tout bête, hein, mais oui, même si on est... Ça peut être tentant, on est en vacances pas trop loin dans la région, ça peut être tentant d'aller voir en vrai la fumée. Bah non, mais si, ça existe,
oui,
hein, je suis désolé,
sûr,
hein,
mais
il y a toujours des gens qui ont envie de voir en vrai ce qu'on voit à la télé. Bah non, là ça fait que embêter le travail des pompiers, des secours, etc., les évacuations. Voilà, ça ne sert à rien d'aller embouteiller la région et de créer un peu plus de risques. Donc voilà, rester éloigné évidemment de la zone, c'est le meilleur moyen d'aider et c'est important, voilà, de faire passer ces consignes autour de la vigilance rouge incendie. À 4h45, la question qu'on vous pose ce matin, ce qui vous fait réagir, c'est cette petite phrase d'Emmanuel Macron qui parle de ces chômeurs qui profitent de la solidarité pour prendre le temps de réfléchir à leur vie alors qu'on manque de main-d'œuvre en France, alors qu'il y a du boulot et que certains ne veulent pas prendre les boulots qui sont proposés actuellement. On entend ces restaurateurs qui cherchent désespérément de la main-d'œuvre. Ça a fait réagir Rémi ce matin au 32-16 qui nous appelle de l'Isère. Comment ça va, Rémi?
Ça va bien.
Ah, bonjour. Alors Rémi, on vous entend très loin, ça va pas être possible. Vous devez être sur haut-parleur ou très loin.
Ouais. Non, excusez-moi,
je suis désolé.
J'étais dans un endroit qui résonne.
Ah, là ça va un peu mieux. Est-ce que vous nous entendez bien, Rémi?
Tout à fait.
Alors Rémi, ça vous a fait réagir, cette petite phrase d'Emmanuel Macron?
C'est un scandale, c'est ridicule.
Non, alors Rémi, je vous coupe, on vous entend toujours pas. Là. Ouais, je suis désolé, ça passe mal là où vous êtes. On va essayer de vous rappeler au standard ou si vous arrivez à bouger.
Allô?
Ouais, c'est toujours...
C'est toujours compliqué.
Ouais, toujours beaucoup d'écho autour de vous, Rémi.
Une petite seconde.
Ça, ce sont les réglages en direct.
En ville direct. Ah bah, je vais tout vous dire. Je pense que Rémi est en train de bosser en fait. En même temps, il nous appelle parce que je vois qu'il est agent d'entretien. Ça doit être pour ça qu'il est levé tôt. C'est ça, Rémi, hein?
Oui, c'est ça.
Ah,
du coup, je me suis mis dans un endroit où ça.
Ah, là, ça va beaucoup mieux. Alors, Rémi, est-ce que le chômage est trop généreux et du coup, ça incite pas les chômeurs à prendre les boulots qu'on propose actuellement? Il y a des centaines de milliers d'offres d'emploi qui ne trouvent pas preneur.
Non, absolument pas. Ce qu'a dit notre président, moi je trouve que c'est un scandale total. C'est-à-dire stigmatiser encore une des parties de la population les plus précaires sous prétexte qu'ils peuvent pas forcément aller faire des boulots à 300 bornes de chez eux sur des qualifications qui sont largement en dessous des leurs ou sur des métiers qu'ils peuvent pas faire parce que physiquement c'est dur ou qu'ils n'ont pas le temps. C'est totalement honteux quand on sait qu'on est au taux de chômage le plus bas depuis 2008. Je pense que les priorités devraient être ailleurs.
C'est-à-dire, parce que vous estimez pas que vous entendez quand même, comme nous, Rémi, tous ces restaurateurs notamment, mais il y a plein de secteurs dans lesquels on
n'arrive pas à bosser. C'est donc ça un vrai problème.
Oui, on cherche des bras.
Et du coup, la réaction pour que ces gens-là trouvent de la main-d'œuvre, ce qui est louable, hein, bien sûr, il n'y a pas de problème. La réaction pour que ces gens-là trouvent des ouvriers, c'est de précariser les gens qui n'ont pas de travail. On trouve, enfin, il y a personne que ça dérange ce genre de choses. Moi,
on peut en débattre, Rémi, mais moi, j'entends régulièrement ce discours où je lis dans les messages sur Direct Studio des gens qui nous disent, le chômage, est plus compétitif que le travail. Quand le SMIC est trop bas, il vaut mieux rester au chômage.
Non, mais attendez, j'aimerais bien savoir combien des gens qui disent ce genre de choses ont passé une longue période au chômage. Parce que moi, si vous voulez, je me lève à 3 heures pour travailler, mais j'ai été au chômage pendant près de 2 ans et demi. Et je vous assure
qu'il n'y a pas un jour où vous vous levez tranquille en vous disant bon bah je vais réfléchir à ma vie, j'ai pas de stress, ça va, je vais pas chercher de travail, etc. Vous vous rendez compte que la proportion de gens qui ont vraiment cette façon de penser, elle doit être infime, que les gens ils souffrent d'être au chômage, que c'est pas un plaisir d'être moins que smicard la plupart du temps pour juste avoir le droit de chercher du travail et de se faire remballer jour après jour. Sérieusement, est-ce qu'on considère que c'est des gens qu'il faut précariser?
Non, c'est sûr, ouais. Évidemment, Rémi, c'est pas la. C'est, oui, l'idée, c'est pas de la précarité, c'est pas de les précariser, c'est de dire peut-être que pour que certains profitent parfois du chômage. Et évidemment,
ouais, je pense que quand il dit ça, Emmanuel Macron. Il y a toujours certains. Le problème, c'est de faire des généralités, c'est vrai.
Évidemment, il y a toujours certains, comme il y a certains supporters qui sont racistes, comme il y a certains.
Non, mais je pense, Rémi, parce que dans sa phrase, il fait le lien avec la période du Covid. Il dit, en effet, il y en a qui ont toujours bossé, et puis qui, au moment du Covid, se sont retrouvés à la maison avec des aides, etc. Et qui peut-être ont eu. Voilà, ce sentiment qu'on pouvait vivre un peu, prendre le temps, on va le dire comme ça.
Écoutez, c'est très simple. Je sais pas si des gens qui travaillent avec M. Macron écoutent la radio le matin. J'imagine qu'il doit y en avoir au moins un ou deux.
Sûrement.
Puisqu'apparemment, ces gens travaillent énormément. Je leur passe le message suivant à ces gens-là. Il faudrait qu'ils essayent de faire des choses pour que le fait de travailler soit plus avantageux que de ne pas travailler. Mais pas en précarisant ceux qui travaillent pas, mais en rendant le travail valable.
Augmenter les salaires, tout simplement.
Bougez pas, Rémi, ça a fait réagir aussi Catherine, qui elle nous appelle de la Mayenne. Bonjour Catherine.
Bonjour.
Alors Catherine, Rémi vient de nous dire la bonne solution, c'est pas de précariser les chômeurs, de taper sur les chômeurs pour les pousser à prendre n'importe quel emploi, c'est plutôt d'augmenter les salaires. Qu'est-ce que vous en pensez, Catherine? Est-ce qu'Emmanuel Macron a raison de dire que le chômage est peut-être trop généreux avec certains?
Eh ben, moi, je pense qu'Emmanuel Macron a totalement raison et qu'à l'heure actuelle, en 2022, un chômeur qui a les moyens de se déplacer, alors je dis bien les moyens, celui qui n'a pas de voiture, qui n'a pas de permis, voilà, pour plus qu'il pense à ce niveau-là. Mais en dehors de ça, un chômeur, à l'heure actuelle, veut être chômeur. Mmh. Et un travailleur veut être travailleur. Parce que tous les jours, il y a des offres d'emploi. Mais tous les jours, regardez le nombre
d'emplois. Oui, mais c'est pas parce qu'il y a des offres d'emploi qu'on peut tout faire. Encore faut-il qu'elles correspondent à nos qualifications.
Évidemment, ça c'est sûr. Mais si c'est des postes d'ingénieurs, ça c'est sûr, tout le monde n'est pas capable. Mais des postes dans les grandes surfaces, dans les usines,
c'est un peu le message. Du boulot, il y en a. Emmanuel Macron a répété hier qu'il suffisait de traverser la rue. Vous, Catherine, vous êtes dans quel secteur?
Moi, je suis en Mayenne. C'est un des taux les plus bas.
De chômage, oui. Mais vous travaillez dans quel secteur d'activité?
Alors, j'en ai plusieurs parce que voilà, je suis active. Ouais. Je remplis dans les grandes surfaces le matin.
Ouais.
Je suis secrétaire la journée.
Ah oui.
Et des fois, je fais des animations.
Oh, oui, donc
et
très
encore, j'arrive encore à refuser du travail.
Oui, parce que je vais vous dire, vous qui travaillez justement dans plusieurs domaines, dans tous ces domaines, vous constatez le manque de main d'œuvre en ce moment.
Ouais,
on cherche partout.
C'est ça. Les gens veulent pas se lever. Ils préfèrent être au chômage. Moi, je travaillerai à Pôle Emploi. Je peux vous affirmer que dans la journée, ils auraient 3 offres. Ils refusaient 3 offres. C'est leur problème, mais ils ne seraient plus indemnisés.
Il ne faut pas
baisser forcément l'indemnisation, il faut forcer les gens à aller travailler.
Oui, alors je m'en
vais. Après, je vous dis, il y a toujours des exceptions.
J'entends Rémi réagir. Rémi, que ça vous fait bondir, j'imagine.
Je suis désolé, mais madame, on ne peut pas être décemment. Il suffit de regarder de toute façon concrètement. Vous allez faire quoi? Vous allez les radier, les gens, parce que ça arrive déjà beaucoup. Je vous assure que les chiffres du chômage, ça compte pas les gens qui sont radiés, parce qu'il y en a quand même un paquet. D'ailleurs, il suffit de chercher un petit peu sur l'INSEE, vous allez le savoir assez vite. Mmh. Mais les gens, vous les radiez, ils finissent dans une précarité qui est extrême, dans la pauvreté. Et vous faites quoi après? Vous payez pour les soigner ou vous les laissez mourir?
Mais on les radie pourquoi? Parce qu'ils refusent d'aller travailler. Mmh. Donc c'est leur choix. On va quand même pas pleurer les gens qui ne veulent pas aller travailler.
Ouais, non mais Catherine et Rémi, je sens qu'on va pas vous mettre d'accord tout de suite, mais vous avez le mérite de poser exactement les termes du débat. Est-ce que la solution pour répondre à la pénurie de main-d'œuvre, c'est de mettre un peu plus la pression sur les chômeurs, un chômage peut-être moins généreux? Ça a l'air d'être la piste choisie par Emmanuel Macron. On va continuer à en parler, mais merci beaucoup Catherine et Rémi d'avoir été si réactifs si tôt pour lancer le débat. On sent bien que voilà, tout le monde n'est pas d'accord, que ça divise. On vous attend, vous, au 32-16, d'accord avec Rémi ou Catherine. Est-ce que c'est la bonne solution de mettre la pression sur les chômeurs pour répondre à la pénurie de main-d'œuvre? On va en débattre avec vous. Ce sera le reportage de la rédaction juste après 5h. Et puis tout de suite, on va aller faire un petit tour sur la route du Tour aussi, avec le meilleur de l'After Tour avec la Dream Team RMC.
RMC, 4h36h.
Charles Matin.
À À 4h54, on fait le point sur les trois infos à la une, Anaïs.
Un petit garçon de 7 ans et sa sœur de 24 ans ont tué hier soir lors d'un feu d'artifice à Cholet. Le procureur de la République d'Angers parle d'un accident de tir. Une troisième personne a été gravement blessée. Deux feux de forêt toujours en cours en Gironde avec plus de 5000 hectares brûlés. 1000 pompiers sont mobilisés. Au sud d'Avignon, vers Tarascon, un incendie a brûlé au moins 300 hectares. Le feu a été fixé dans la nuit. Et puis l'équipe de France est qualifiée pour les quarts de finale de l'Euro 2022. Les Bleus ES ont battu la Belgique 2-1 hier. Elle termine première de leur groupe.
Et à 4h55 sur RMC, c'est l'heure de notre rendez-vous sur la route du Tour, la grande boucle, le meilleur de l'after tour. Vous le savez, tous les soirs, la Dream Team RMC débrief l'étape du jour. Et hier, sur les pentes de l'Alpe d'Huez, Tadej Pogacar n'a pas réussi à inquiéter le leader Jonas Vingegaard. Alors Christophe Cessieux et sa Dream Team se sont demandé si le Slovène avait encore une chance face aux Danois.
RMC, l'after tour.
Il y a une descente, puis derrière la montée, de 8 km à 7,8% pour aller jusqu'à Peyragudes. Jeudi, ça sera Lourdes Otakam. Un hors catégorie pour finir. Otakam, on imagine là qu'il va garder cette dernière possibilité. 13 km 600 à 7,8%. Et puis, la dernière cartouche éventuellement, mais on en a déjà parlé, ça sera pas simple. C'est le chrono du côté de la Capelle Rocamadour, un chrono de 40 km. On sait jamais s'il avait réussi à faire une petite addition sur les différentes offres qui lui sont données. Peut-être aller chercher les dernières secondes et aller récupérer le maillot jaune.
Cyril, il ne croit pas du tout à toi.
J'ai essayé d'être convaincant.
Je vais résumer ce que vient de dire Pierre-Yves en « on ne sait jamais ».
Sûr.
Mais toi, pour toi, il a déjà tout regagné, à moins d'une défaillance. Toujours possible. Si le Covid ne s'en mêle pas, s'il n'y a pas de gamelle, s'il n'y a pas de ceci, s'il n'y a pas de cela, honnêtement, je ne vois pas comment on peut reprendre autant de retard sur l'homme qui, depuis le départ, a assumé son rôle au niveau de Pogacar et qui a toujours été au niveau de Pogacar.
Moi, tu m'as presque convaincu. J'ai envie de te croire, mon
Pierrot. Bien sûr.
Mon Pierrot, c'est pas comme ces deux-là, là.
Ce sont des briseurs.
Non, c'est pas du tout.
Briseurs de rêve.
On n'a pas le même rôle. Vous êtes des journalistes, on est des consultants. Donc nous, on analyse en tant que ancien coureur ou en tant que directeur sportif, en tant que technicien et tacticien, parce que on l'a pratiqué toute notre carrière. Vous, vous rêvez de voir un grand spectacle comme celui qu'on a eu hier.
Oui, toi,
parce que ça vous fait plaisir.
Tu n'en rêvais même pas de ce spectacle. Tu l'imaginais pas une seconde, ce spectacle hier. Pourtant, il est à
toi. Je l'avais décalé d'une étape.
Aujourd'hui, ça devait arriver.
Oui, mais s'il n'avait pas eu lieu hier, elle aurait eu lieu aujourd'hui.
Mais il y a trois jours, tu nous disais, Tadej Pogacar a gagné le Tour.
J'ai osé dire ça de façon affirmative.
On a toutes les bandes, tous les enregistrements.
Non, j'ai dit qu'il avait tous les atouts pour.
Ah ouais, maintenant il a plus un atout maintenant. Il a plus rien dans la manche.
Terminé, le français, les mots veulent dire quelque chose.
Les mots ont un sens.
Ouais. Les mots ont un sens.
Et tout ce que vous avez dit, monsieur Guimard, dans les minutes qui ont précédé, est enregistré, sera rediffusé sur les Champs-Élysées en mars prochain.
Surtout ce que tu as dit. Dans l'after tour de dimanche sur les Champs-Élysées, on te ressortira tout ce que tu as dit.
RMC. L'after tour.
Des débats de plus en plus animés, à mesure que la course s'anime évidemment dans l'after tour. Et puis rendez-vous avec l'intégral tour tout à l'heure, 14h sur RMC pour cette 13e étape qui arrivera à Saint-Étienne. Il est 4h58. Les infos approchent ainsi que la météo. Mais la petite minute culture tous les matins avec Anaïs et les vieilles charrues. Le festival a ouvert ses portes hier soir.
Ouais, il y avait du beau monde pour ouvrir le bal, notamment Clara Luciani. Qui est-ce qui chante, Géraldine?
C'est moi, pardon, j'adore.
Moi aussi j'adore. Il y avait aussi SCH qui a fait un tabac avec Bande Organisée. C'était la folie. Tout le monde chantait. Au programme aujourd'hui, Angèle. Matmata.
Ça nous rajeunit pas.
C'est clair. Et DJ Snake. Demain, la grosse affiche, ce sera M. Et dimanche, Aurel San. Les vieilles charrues qui fêtent leurs 30 ans cette année. Pour fêter ça, un spectacle de drones avec des jeux de lumière est organisé tous les soirs.
Ouais, et magnifique affiche. Hein, ouais. Angèle, DJ Snake, ouais, Aurel Salem, SCH, ça avait l'air sympa aussi hier soir. Ouais. Hein, ouais. Bref, les vieilles charrues hier soir qui fêtent leurs 30 ans et ça continue tout le week-end évidemment. Et c'est l'occasion d'entendre de la bonne musique sur RMC de bon matin. À 4h59, Géraldine vient de passer une minute à danser, mais il est temps de se pencher, Géraldine, sur la carte météo du jour.
Et toujours ces fortes chaleurs dans le sud. Alors, ça y est, hier, on a eu les premiers 40 degrés de cette canicule. C'était à La Palue, dans le Vaucluse. Ça ne va pas être les derniers. Loin de là, 11 départements, vigilance orange, canicule. Donc, on a rajouté les Pyrénées-Orientales, le Gard, le Vaucluse, justement, et les Alpes de Haute-Provence. Donc, on va vraiment avoir un contraste nord-sud aujourd'hui. 25 degrés à Lille cet après-midi, mais 39 à Perpignan, 38 à Toulouse, 37 à Marseille. Il fera 36 à Bordeaux, 33 à Lyon, 28 à Paris et Nancy, avec évidemment beaucoup de soleil encore pour aujourd'hui. Pendant le week-end, les températures vont remonter partout, mais c'est vraiment lundi qu'on va avoir le pic de la canicule. On va vivre l'une des journées les plus chaudes de notre histoire. De nombreux records devraient tomber. La chaleur restera extrême mardi, et puis à partir de mercredi, les températures devraient quand même progressivement baisser.
Vendredi 15 juillet,
l'info sur RMC.
Il est 5h, bon réveil à tous, bon courage si vous êtes au boulot, sur la route ou peut-être encore dans votre lit. L'essentiel, c'est qu'on est tous ensemble à 5h pour le journal qui vous est présenté par Céline Kallmann. Bonjour Céline.
Bonjour Charles, bonjour à tous. L'info de la nuit, un garçon de 7 ans et sa sœur de 24 ans tués lors d'un feu d'artifice hors de contrôle organisé hier soir par la mairie de Cholet. Hors de contrôle aussi les incendies en Gironde, 10 000 personnes évacuées, 5 300 hectares de végétation brûlés, feu fixé en revanche au sud d'Avignon. Et puis le taux du livret A va doubler et passera à 2% en 1er août, son plus haut niveau depuis 2012.
Terrible incident hier soir à Cholet dans le Maine-et-Loire.
Un garçon de 7 ans et sa sœur de 24 ans ont été tués pendant le feu d'artifice du 14 juillet. Une troisième personne a été blessée. Léna Marjac, un mortier a explosé sur les spectateurs.
Oui, c'était hier soir peu après 23h. Un mortier a dévié de sa trajectoire venant toucher mortellement un garçon de 7 ans et sa sœur de 24 ans. Une troisième personne a été grièvement blessée, transportée dans un service pour grands brûlés. Pas d'autres blessés à déplorer. Les deux victimes venues en famille étaient assises à une cinquantaine de mètres du pas de tir sur la pelouse du parc de Moines dans le centre de Cholet. Sur des vidéos publiées sur les réseaux sociaux, on peut voir des scènes de panique. Dès le début du feu d'artifice, le public part en courant, effrayé par le mortier qui a atterri à quelques mètres d'eux. Mais pour autant, le spectacle de 15 minutes a été mené à son terme. Le procureur d'Angers parle d'un incident de tir sans donner plus de précision. C'est une entreprise bretonne qui se chargeait de l'organisation de ce feu d'artifice musical. Une enquête pour homicide involontaire a été ouverte et a été confiée à la sûreté départementale du Maine-et-Loire.
Léna Marjac en direct sur RMC. L'actualité également ce matin, ce sont toujours les incendies en Gironde. Depuis mardi, 5 300 hectares ont été ravagés par les flammes et au total, 10 000 personnes ont dû être évacuées, dont les habitants hier de la commune de Cazaux. Reportage de Théo Renaudon, Rémink avec nos confrères de BFM TV.
Sur la petite route qui sort du village, deux files, celle des pompiers qui arrivent et celle des habitants qui partent.
Le vent a tourné, du coup le nuage de fumée est venu vers nous, les cendres avec. Mon compagnon est déjà parti avec ma fille. J'ai attendu au cas où et la police est venue me dire qu'il fallait partir.
Avec quelques affaires dans le coffre.
Trois culottes, deux caleçons, trois t-shirts, mon chat et puis voilà.
À quelques kilomètres de là, des policiers empêchent les habitants qui veulent aller chercher leurs affaires d'accéder au village.
Je voulais rentrer chez moi pour récupérer mes animaux et mettre ma maison en sécurité. Bah tant pis, on espère qu'ils fugueront pas et que tout se passera bien et qu'il n'y aura pas d'incendie.
Ce qui crée des scènes de tension entre forces de l'ordre et riverains.
Je passerai pas. Allez tout droit. Il faut que je passe. Non. Famille, mes enfants.
Non. C'est comme tout le monde. Sois intelligent un peu. Va tout droit. Dépêche-toi. Tu ne passeras pas. T'as compris?
Les 4000 habitants de Cazaux ont pu passer la nuit dans un hébergement d'urgence.
L'incendie déclenché par des étincelles au passage d'un train de marchandises au sud d'Avignon est fixé ce matin. Il ne progresse plus. 300 hectares de végétation sont partis en fumée. Près de 1000 pompiers restent bien sûr mobilisés. Ce matin, 11 départements sont en alerte orange canicule. Il va faire encore entre 38 et 40 degrés. Au Maroc, les températures avoisinent les 45 degrés. Près de 500 familles ont dû être évacuées après des incendies qui ont ravagé au moins un millier d'hectares de forêt. RMC 5h03, c'est une revalorisation en trompe-l'œil du livret A. Il va doubler et passer à 2% en première août, son plus haut niveau depuis 2012. Mais le taux, même revalorisé, va rester nettement inférieur à l'inflation, mesurée à 5,8% sur un an au mois de juin. Jean-Wilfried Forquès.
Installée en France depuis un an, Mercedes, originaire du Venezuela, possède un livret A où elle a déposé près de 1 000 euros. Mercedes apprécie ce coup de pouce.
Je pense que c'est une bonne nouvelle, bien sûr, parce que l'inflation monte chaque mois de plus en plus.
Ce n'est pas l'avis de Jean, retraité. Avec sa femme, ils ont 2 livrets avec près de 15 000 euros placés.
Je trouve que c'est complètement insignifiant. On a une inflation qui galope jour après jour. Tout devient de plus en plus cher. Et il faudrait passer carrément à 5 pour aujourd'hui compenser l'inflation et tout. Tous les jours, notre argent placé perd de la valeur.
Marc Touati est économiste. Il rappelle que le livret A reste un bon placement.
C'est vrai que dans le contexte actuel, qui est très inquiétant, avec beaucoup de craintes, notamment sur les marchés boursiers, à court terme, le livret A reste un bon placement de père de famille, puisque déjà c'est défiscalisé, on ne paye pas d'impôt dessus, et il y a un petit rendement supplémentaire, et on peut constamment piocher dedans.
Aujourd'hui, malgré la crise, 8 Français sur 10 font encore confiance au livret A.
À retenir également dans l'actualité, la mort d'Ivana Trump, la première femme de l'ancien président américain, mère de 3 de ses enfants. Elle avait 73 ans. On ignore les raisons de son décès, qui ne semble pas être d'origine criminelle, selon la police. En sport, l'équipe de France féminine a assuré l'essentiel à l'Euro hier soir face à la Belgique. Victoire de 1, les Bleus sont qualifiés pour les quarts de finale. Puis le Tour de France, victoire hier du Britannique Thomas Pidcock à l'Alpe d'Huez. Le Français Romain Bardet a perdu un peu de temps. Il se retrouve 4e. Vingegaard, toujours maillot jaune. 13e étape aujourd'hui entre le Bourg-d'Oisans et Saint-Etienne, 192 km.
Il est 5h05 et tiens, comme on est entre nous, je peux vous dire un secret. C'était le dernier journal de 5h de Céline Kallmann. Bah oui, c'est son dernier jour à RMC. On peut le dire, je le dis de bonne heure, mais vous en retrouvez Céline tout à l'heure à 6h, à 7h, à 8h, évidemment. Mais voilà, je tenais à partager le secret ce matin, parce qu'il y a un peu d'émotion à la rédaction, évidemment, et n'hésitez pas. Tiens,
allez, envoyez des petits messages.
Envoyez de l'amour à Céline sur Direct Studio toute la matinée,
give me
évidemment.
Some love.
Exactement, Céline, vous la retrouvez à 6h sur RMC et RMC Story, le canal 23 de la TNT, pour en profiter jusqu'au bout. À tout à l'heure, Céline, il est 5h06, c'est l'heure de vous faire gagner.
RMC, la voix du jour.
La voix du jour, comme tous les matins, c'est la voix qui récompense les leftos, qui vous permet de gagner des beaux cadeaux au 32-16.
Oui, vous tendez l'oreille pour écouter cette voix qu'on va vous diffuser. Si vous reconnaissez, c'est simple, vous faites le 32-16.
Le taux du livret A augmentera. C'est ma priorité absolue aujourd'hui. Je prends l'engagement ce matin que le taux du livret A augmentera pour les millions de Français qui ont un compte livret A.
Alors, qui est le ministre en charge de ces questions économiques autour du livret A? Dans sa voix, est facile à reconnaître. Le taux du livret A, qui s'en charge? Je sais pas quel ministre vous associez au livret A. Vous avez reconnu sa voix? Je sais pas si on peut
donner. Depuis un temps, on disait le renouveau, c'est.
Ah ouais, c'était il y a longtemps. Ouais. C'était oui. Ouais, oui, le renouveau, c'est Bruno. Allez, on donne le prénom. Voilà. Allez, ça fait beaucoup d'indices. Vous l'avez reconnu, soyez rapide. Composez tout de suite le 32-16 et vous allez pouvoir gagner.
Plein de choses. D'abord, un tote bag RMC, la tasse des grandes gueules, le t-shirt du Super Moscato Show et puis le livre Génération After Foot.
Voilà, total look RMC. Bonne chance pour l'été à gagner. Et le gagnant le plus rapide sera avec nous à l'antenne avant 5h30. Avant 5h30, ce sera aussi le choix d'Anaïs.
On va parler chaleur. On n'en a pas fini avec la canicule. Vous entendez peut-être plein de bons conseils pour vous rafraîchir, mais on entend un peu tout et n'importe quoi. Eh bien, je vais vous aider ce matin à y voir clair, tout simplement.
Mais d'abord, la question du jour, la petite phrase d'Emmanuel Macron qu'on va écouter dans un instant. Et cette question, face à la pénurie de main-d'œuvre, faut-il durcir les conditions de l'assurance chômage? On va en débattre avec vous au 32-16. Et puis, c'est le reportage de la rédaction tout de suite sur RMC.
RMC, jusqu'à 6h.
Charles Matin. RMC, 4h30, 6h. Charles Matin.
Anaïs Castagna, Charles Magnin.
Il est 5h09. Bon réveil à tous sur RMC. Alors, pour répondre à la pénurie de main-d'œuvre, faut-il durcir les conditions de l'assurance chômage?
C'est la question du jour sur RMC.
Monsieur le Président, bonjour.
Bonjour.
Bonjour, Monsieur le Président.
Bonjour.
Merci de nous recevoir dans ces jardins de l'Élysée.
C'était hier à 13h, Emmanuel Macron a renoué avec la traditionnelle interview du 14 juillet, l'occasion de faire plusieurs annonces, notamment celle d'un plan de sobriété énergétique pour faire face au risque de pénurie lié à la guerre en Ukraine, avec un objectif, réduire de 10% notre consommation globale d'énergie.
Oui, il a également à nouveau promis une réforme des retraites qui entrerait en vigueur à l'été 2023, mais surtout, autre annonce, pour faire face à la pénurie de main-d'œuvre, le chef de l'État annonce une nouvelle réforme de l'assurance chômage.
Je veux dès cet été que nous puissions
avancer sur la réforme du travail. Il n'y a pas de fatalité.
Qu'est-ce que ça veut dire avancer sur la réforme du travail?
Ça veut dire que nous devons...
Ça veut dire avancer sur la réforme de l'assurance chômage?
Oui, ça veut dire qu'aujourd'hui...
Aller plus loin?
Bien sûr, on doit aller plus loin. Il n'y a pas aujourd'hui un endroit en France où les gens ne vous disent pas « j'ai besoin de travail, je cherche des gens pour travailler ».
6 entreprises sur 10.
Voilà, partout.
Disent qu'elles ont des problèmes de recrutement.
Il m'est arrivé parfois dans ce jardin de dire qu'il fallait traverser la rue pour parler des restaurants qui sont en face.
Vous l'avez regretté ?
C'est encore plus vrai, pas du tout, mais c'est une vérité.
Mais comment vous l'analysez ?
Une discussion qui était...
Comment vous l'analysez ?
Et quand je me déplace, j'ai aujourd'hui des restaurateurs qui me disent « je ne pourrais pas ouvrir le week-end parce que j'arrive pas à trouver de gens ».
Et vous savez
des gens
qui disent,
je dois fermer des chambres.
Vous savez pourquoi est-ce qu'ils ne trouvent pas ? C'est intéressant peut-être de s'arrêter sur ce sujet-là.
C'est un ensemble, ça dépend des régions.
Il y a certaines personnes qui peut-être vous regardent aujourd'hui qui se disent « non, c'est vrai que ce ne sont plus des métiers que je veux faire parce que ce sont des métiers trop durs, on commence trop tôt, on termine trop tard et on est trop mal payé ». Est-ce que vous entendez cela ?
Alors, je vais vous dire... S'ils peuvent trouver et aller vers un autre métier, je l'entends très bien. Si derrière la réponse c'est « je vais bénéficier de la solidarité nationale pour réfléchir à ma vie
oui. »,
j'ai du mal à l'entendre. Parce que cette solidarité nationale, c'est ceux qui bossent qui la payent. Et une nation, c'est un tout, organique. Et je le dis, il n'y a pas de modèle social s'il n'y a pas du travail pour le financer.
Voilà, Emmanuel Macron qui parle de certains chômeurs qui profiteraient du système pour réfléchir à leur vie. C'est sa petite phrase hier avec cette annonce d'une nouvelle réforme de l'assurance chômage pour éviter que certains en profitent. Le message d'Emmanuel Macron. Mais Anaïs, on va rappeler qu'une réforme de l'assurance chômage vient à peine d'entrer en vigueur.
Oui, les règles ont été durcies à la fin de l'année dernière. Il faut désormais avoir travaillé 6 mois et non plus 4 pour bénéficier d'une allocation chômage. Principaux perdants, les précaires et les jeunes. Et puis la dégressivité de 30% s'applique désormais au bout de 6 mois et non plus de 8 mois pour les cadres. Une réforme qui doit affecter négativement 1,7 million de personnes, selon l'UNEDIC, mais elle va permettre de réaliser 1,9 milliard d'euros d'économies cette année, 2,2 milliards en 2023. Sur les 6 millions de personnes inscrites à Pôle emploi, seuls 42% sont indemnisés et en moyenne de 1 000 euros par mois, 58%, faut le rappeler, ne touchent rien.
Alors, c'est à vous de nous dire ce matin, faut-il à nouveau durcir ces règles pour répondre à la pénurie de main-d'œuvre, comme semble le souhaiter Emmanuel Macron ? Eh bien, Garance Munoz et Lucie Rispal vous ont posé la question, c'est le reportage de la rédaction.
Près de 350 000 emplois à pourvoir cette année, selon le gouvernement. Un manque de main-d'œuvre dans plusieurs secteurs. Quentin est cadre supérieur dans le médical.
J'ai aujourd'hui presque un tiers des postes qu'on propose qui sont pas fournis. Ça ne correspond pas aux attentes, ça ne correspond pas à ce que les personnes voulaient faire, ça ne correspond pas à leur parcours de carrière, ça ne correspond pas à plein de choses. Chacun a ses raisons, je ne jette pas la pierre. Tout ce qu'on veut dire, c'est objectivement, le travail existe.
La France compte pourtant 3 millions de chômeurs. Michel travaille depuis ses 16 ans. Avant d'être agent technique dans la petite enfance, elle a cumulé plusieurs petits boulots.
Enfin, celui qui a envie de travailler, ben, je pense qu'on peut trouver du travail. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui profitent du système. On a pas mal de petits stagiaires qui viennent, tout ça. Bon, il y en a qui veulent travailler, mais il y en a qui veulent pas non plus. Ils attendent qu'on leur donne tout. Faut bosser, faut avoir du courage.
Seulement, il n'est pas toujours simple de remplir les critères des employeurs. C'est ce que critique Edmond, commercial dans l'énergie.
J'ai une petite sœur qui a déposé des CV partout, dans les bars, etc., à Paris et en banlieue. Et malheureusement, qui s'est fait accepter nulle part par manque d'expérience, justement. C'est pas aussi simple qu'est-ce qu'il disait Monsieur Macron. Après, peut-être pour lui, c'est plus simple parce qu'il a un gros CV.
Et une fois le job en poche, encore faut-il être suffisamment payé pour assumer les dépenses quotidiennes. Pour Kevin, 33 ans, une difficulté en plus.
Dans mon ancien travail, j'étais responsable d'équipe dans la vente. Je touchais 1250 net et clairement, ça ne suffisait pas. Trouver du travail, oui, mais juste pour pouvoir s'acheter des cacahuètes et un peu d'eau, concrètement, ce ne sera pas grand-chose.
Les emplois proposés, eux, ne sont pas assez attractifs selon Benoît Martin, secrétaire général de la CGT Paris.
Aujourd'hui, 85% des contrats qui se signent chaque année sont des CDD. Les gens vont enchaîner 20 CDD dans une même année, hein, des CDD d'une journée ou d'une semaine. Comment construire sa vie quand on est dans une telle précarité, une telle instabilité ?
Hier soir, un autre syndicat regrettait qu'une nouvelle fois, Emmanuel Macron considère les chômeurs comme des fainéants.
Et justement, c'est à vous de nous dire ce matin, est-ce que vous êtes d'accord avec Emmanuel Macron ? Est-ce qu'il faudrait durcir les règles de l'assurance chômage pour rendre peut-être le chômage moins attractif et convaincre les demandeurs d'emploi d'accepter les métiers dans tous les secteurs qui manquent de main-d'œuvre aujourd'hui ? On va avancer, on va y voir plus clair avec vos témoignages. Ce matin, on va accueillir Marc qui nous appelle de Suisse, c'est ça ? Bonjour Marc.
Bonjour.
Ah Marc, vous êtes peut-être sur haut-parleur, non ? Je vous entends un peu loin du téléphone.
Non, pas du tout.
Non, là, c'est beaucoup mieux, oui. Marc, vous êtes en Suisse, ça va être intéressant d'avoir votre point de vue. Vous êtes français qui travaille en Suisse, c'est ça, travailleur frontalier ?
C'est ça, ça fait un an que j'ai aménagé en Suisse.
Et puis vous avez connu le système français. Est-ce que vous estimez qu'en France, les indemnités chômage sont trop généreuses et ça incite pas à accepter du travail?
Moi, je trouve pas. Enfin, je vais parler dans mon cas. J'ai eu recours plusieurs fois au chômage parce que j'y avais droit.
Ouais.
Toujours dans des courtes périodes et pour changer d'emploi.
Mmh.
Et je pense que si on veut travailler, en effet, on trouve du travail, mais il y a aussi des offres d'emploi qui sont pas assez élevées, des salaires qui sont pas assez élevés.
Oui, on peut donc pas tout accepter, c'est ça.
C'est ça. Moi, j'en ai toujours bénéficié sur de très courtes périodes, entre deux contrats, le temps de retrouver un employeur.
Oui, mais alors, si c'est dans votre exemple, c'est très voilà, vous avez on sent que c'est du chômage qui vous a servi à changer de boulot, à rebondir. Vous en avez pas profité pendant des années, c'est ça qu'on entend dans votre témoignage, Marc. C'est pas on peut pas d'ailleurs, je sais pas si c'est le bon verbe, profiter. On profite pas du chômage, Marc, vous qui l'avez connu.
Non, du tout. Bon, y a des gens peut-être qui profitent de ne pas vouloir travailler, de ne pas vouloir chercher du travail. Mais lorsqu'on y a droit, ça peut être très utile pour justement rebondir et trouver une meilleure condition.
Alors, je vais vous poser la question autrement, Marc. Quand vous vous êtes mis au chômage, est-ce que c'est tentant d'y rester? De vous dire, voilà, j'ai des indemnités élevées. Voilà, est-ce que ça peut être tentant quand on est au chômage d'être, comment dire, un peu moins motivé pour chercher du boulot?
Non, dans mon cas, c'était pas tentant du tout puisque les salaires étaient plus. Plus tentant les salaires que le chômage.
Ah bah ça, ouais, mais il faut le dire ça, Marc, parce qu'on entend beaucoup qu'on touche presque plus au chômage qu'en travaillant. C'est pas vrai.
Ça, c'est pas vrai, non. C'est pas vrai. C'est des branches dans lesquelles c'est vrai.
Et vous êtes dans quelle branche? Vous êtes parti en Suisse pour travailler dans quelle branche?
Dans l'industrie métallique.
Dans l'industrie métallique. Et vous êtes parti en Suisse, bah, j'imagine, si vous aviez le choix, que c'est parce que les salaires sont plus élevés.
Voilà, les salaires sont plus élevés, les conditions de travail sont vraiment, dans mon cas, toujours bien plus sympathiques.
Ouais.
Le travail est bien plus mis en avant, pardon.
Oui, mais donc preuve que c'est aussi la question, c'est le salaire. Bah,
les conditions de travail, tout simplement. Travail, voilà, si elles sont bonnes, il n'y a pas de raison de ne pas travailler, en fait.
C'est ça, conditions de travail et salaire. Et ici, le chômage, il y a une assurance chômage, mais qui est beaucoup plus drastique. On doit justifier de 3 candidatures minimum par semaine, sinon pas d'indemnité.
Ah oui, 3 offres d'emploi, enfin 3 candidatures, il faut candidater à 3 jobs par semaine pour continuer à percevoir. Oui, c'est bien plus drastique qu'en France, évidemment.
C'est ça, il faut justifier toutes les semaines de candidatures volontaires, sinon on coupe les indemnités.
Ouais, justifier comment?
Bah, montrer qu'on a envoyé des CV, quoi. Ah, c'est ouais. Qu'on a candidaté à des postes, etc. Oui, être actif dans sa recherche d'emploi,
c'est
beaucoup plus drastique qu'en Suisse. Bougez pas, Marc, on va accueillir Thierry, qui lui nous appelle de l'Hérault. Bonjour Thierry.
Salut à tous, à toute l'équipe.
Bonjour Thierry.
Comment ça va Thierry? Je levais de bonne heure pour être sur la route déjà. Vous êtes chauffeur poids lourd, c'est ça?
Ouais. Ben oui.
Eh ben oui. Vous êtes.
On fait le bon. Ben bref, c'est pas grave.
Vous êtes
c'est
sur le ça. Pont. Voilà.
au boulot de bon matin. Et Thierry, vous entendez ce débat sur le chômage? Ouais. Est-ce que vous êtes d'accord avec Emmanuel Macron? Est-ce que certains profitent un peu d'un système trop généreux pour prendre le temps de faire le point sur leur vie, comme le dit le chef de l'État?
Alors, il y en a certainement qui en profitent, certainement, comme de tout. Hein. Et par contre, il y en a d'autres, eh ben, ils profitent pas. Hein. Enfin, c'est pas qu'ils profitent pas, ils peuvent plus, quoi. Des personnes, moi je m'excuse, des personnes qui ont 58, 59, 55, si on leur propose du boulot, ils vont pas y aller, hein, normal. Ils vont profiter, et puis c'est tout. Et puis ils ont bien raison. Alors moi, ce que je voulais dire là-dessus, c'est que moi j'ai des cas dans ma famille. Hein. Donc,
c'est-à-dire, vous dans votre famille, il y a des demandeurs d'emploi. C'est ça, des chômeurs de longue durée, comme on dit.
Oh oui. Ben moi, j'ai un grand exemple. Hein, il est un tout petit peu plus jeune que moi. Il a fait ça toute sa vie. Hein, travaille 4, 5, 6, 7. Il se met au chômage. Il fait une formation, machin. Ça repousse et bon, ben il a raison. On lui paye. Mais
c'est il le fait exprès. C'est ce qu'il vous dit. Je sais pas qui c'est pour vous, mais c'est fait exprès parce que voilà, il se retrouve mieux comme ça à travailler seulement une partie de l'année.
C'est ça. Et puis j'ai encore un exemple. Donc je vais comparer mon fiston qui fait 50 km aller-retour, qui sort de l'école, hein, qui a un BTS, mais qui fait un travail qui est en dessous de ce qu'il doit être. Bon, il gagne le SMIC, hein. Mais je vois la personne que je vous parlais là, mon petit frangin. Lui. Avec les aides, donc le chômage, les aides et compagnie, bah ils touchent plus que le SMIC. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils sont kikines à aller travailler, franchement.
Donc pour vous, c'est ça Thierry, la solution, c'est de durcir. Le chômage est trop généreux.
Alors,
en France.
On peut le durcir, mais le problème, si on va le durcir, mais on en reviendra toujours au même, ce qu'il faut faire, tout à l'heure, Mathieu, vous parliez d'attractivité. Eh bien, qu'on rende attractif le travail.
Oui.
C'est-à-dire qu'on augmente les salaires.
C'est ce que nous disait Rémi avant 5 heures. Voilà. La solution, ce n'est pas de précariser les chômeurs, c'est de rendre le travail encore plus attractif, plus compétitif
Bien sûr, voilà. Bien sûr. Qu'est-ce que vous voulez qu'un gars avec le SMIC à 1300 euros net par mois aille travailler s'il touche 1000 euros? Il n'a pas les frais d'essence, il n'a pas les frais de ci, il n'a pas les frais de ça, il n'a pas. Malheureusement ou heureusement, tant mieux pour lui. Il peut rester chez lui et puis, moi je vous dis franchement, moi depuis l'âge de 17 ans je travaille, à part le service national, j'ai toujours travaillé de ma vie, j'ai jamais arrêté. On est dans un secteur où on demande de la main d'œuvre, donc on a toujours trouvé du travail. Il y a 20 ans, il y a 30 ans, il y a 40 ans, on trouvait du travail dans le transport, même maintenant. Mais je prends le transport parce que je connais bien, ce n'est pas attractif pour un jeune.
Le salaire n'est pas assez attractif, les conditions de travail, le monde a changé, on ne peut pas proposer les mêmes salaires, les mêmes conditions qu'il y a 20 ans. Aujourd'hui, quand il y a le chômage a baissé, et forcément, pour les jeunes, ils cherchent le meilleur emploi possible.
Mais bien sûr, puis ils ont raison, quoi. Ils cherchent ou ils ne cherchent pas. Mais moi, je comprends très très bien qu'on me dise, écoute, pourquoi vais-je me lever le matin pour gagner 1300 euros net? Pour aller au turbin, et alors qu'au chômage, je gagne 1100 euros avec les aides qu'il y a de greffer avec, parce qu'il y a des types au chômage, ils gagnent 800 euros.
Oui, mais ce qu'on comprend dans votre appel, Thierry, c'est que la solution n'est pas forcément de durcir les conditions du chômage, mais plutôt d'augmenter les salaires, que ce soit plus motivant d'aller travailler. On va voir si tout le monde est d'accord ou pas, mais sur le constat d'Emmanuel Macron, c'est qu'il faudrait rendre le chômage peut-être un peu moins attractif. Il annonce une nouvelle réforme du travail. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas avec cette position? On va remercier Marc aussi qui nous a appelé de Suisse, qui lui est carrément allé en Suisse pour trouver un meilleur salaire et des meilleures conditions de travail, mais Marc qui nous expliquait que ça lui est arrivé plusieurs fois de profiter du chômage, en tout cas de passer par des périodes de chômage pour rebondir. Voilà, ça permet aussi ça, le chômage, mais est-ce que l'assurance chômage est trop généreuse en France? On va continuer à en débattre avec vous ce matin au 32-16 sur RMC. N'hésitez pas, comme Thierry et Marc, à prendre la parole, et puis on va aussi vous faire gagner dans un instant, on va voir qui a reconnu la voix du jour, et puis on va essayer de se rafraîchir aussi avec Anaïs.
Oui, parce que ça fait des jours qu'on dort mal, Charles, à cause des trop fortes températures.
Ah, tu dis on, c'est tous, pas tous les deux ensemble.
Oui,
je coupe court à la rumeur tout de suite.
Évidemment, c'est pas fini, nous dit Géraldine, le pire est à venir. Bien, je vais vous donner des bons conseils pour se rafraîchir.
Allez, Anaïs vous rafraîchit dans son choix tout de suite sur RMC.
RMC, 4h36h,
Charles Matin.
5h23 sur RMC, on fait le point sur les trois infos à la une.
À la une ce matin, les pompiers affrontent toujours de feux de forêt agressifs en Gironde. Plus de 5000 hectares sont partis en fumée. À Cazaux, la solidarité s'organise. Les habitants n'hésitent pas à aller apporter des boissons, de la nourriture aux pompiers. Mais écoutez bien ce restaurateur, Stéphane, il a un message à faire passer.
De voir effectivement des élans de générosité, c'est quand même très bien. Il faut simplement que ça dure, parce que là aujourd'hui il y a beaucoup de fumée, tout le monde le voit. Il y en a au minimum pour 15 jours, voire plus. Donc la générosité, il faut qu'elle dure un peu longtemps dans ce cas-là.
Vers Tarascon, dans les Bouches-du-Rhône, le feu a été fixé. 300 hectares ont été brûlés. Deux personnes sont mortes hier à Cholet suite à lors du feu d'artifice tiré pour le 14 juillet. Un garçon de 7 ans et sa sœur de 24 ans, victime d'un accident de tir. Une troisième personne a été blessée. Et puis l'équipe de France de foot féminine qualifiée pour les quarts de finale de l'Euro. Elle a battu la Belgique 2-1 hier.
Et puis on attend toujours des températures caniculaires, notamment dans le sud du pays. Aujourd'hui, on va faire le point avec Géraldine Nomori dans quelques minutes, mais tout de suite à 5h24. Les bons conseils pour se rafraîchir avec Anaïs.
RMC, Charles Matin.
Le choix d'Anaïs.
Alors Anaïs, depuis quelques jours, dans les médias, on entend un peu tout et n'importe quoi en termes de conseils pour se rafraîchir. Et donc, tu as fait un peu le tri pour nous.
Oui, on va se poser toutes les bonnes questions. Avec ces fortes chaleurs, comment faut-il dormir déjà? Nu ou en pyjama, à ton avis?
Nu.
Eh bien non, Charles, désolé. Lorsqu'on dort nu, la sueur s'accumule sur notre corps. Elle ne s'évacue pas. Pour bien faire, il faut porter une tenue légère, en coton ou en soie. En revanche, pas de synthétique. Bon, après, ça c'est pour bien dormir lorsque les températures sont très élevées. En temps normal, c'est vrai que se coucher nu est plutôt recommandé.
C'est trop joli, mes fesses.
Oui.
Autre question ce matin, est-ce qu'il faut garder un drap Charles.
Oui, enfin moi en tout cas je peux pas dormir sans.
Ah bah comme de nombreux Français, ça permet d'absorber la sueur. Donc s'il est fin, c'est bon, tu peux le garder. Deux Français sur trois sont incapables de s'en passer, voilà. Même avec la canicule. Une autre astuce tout simple pour bien dormir, c'est de dormir tout seul. Je suis désolée, la période n'est pas vraiment propice au rapprochement avec votre partenaire.
Et est-ce que j'ai intérêt à prendre une bonne douche froide pour me rafraîchir ?
C'est vrai que c'est tentant de prendre une bonne douche glacée, mais désolé les amis, mauvaise idée, ça va forcer votre corps à se réchauffer, vous risquez d'avoir plus chaud en sortant de la douche, donc ne changez rien, température normale, ne vous séchez pas, laissez l'eau s'évaporer. Pour les boissons fraîches, c'est un peu la même idée, on a tendance à croire que ça va nous rafraîchir, mais si c'est trop froid, votre corps va produire de la chaleur. Mieux vaut boire de l'eau à température ambiante, voire même consommer des boissons chaudes.
Et il ne faut pas hésiter à boire plus que d'habitude.
Oui, mais alors là, attention, pas trop non plus, 1,5 litre à 3 litres par jour, ça suffit. Si vous buvez 5 litres par jour, vous risquez de vous intoxiquer.
Ah, on peut boire trop d'eau.
Oui, je ne le savais pas, mais les spécialistes disent que chaque année, ils voient des gens arriver aux urgences parce qu'ils ont trop bu. Ils font des œdèmes cérébraux, surtout les personnes âgées, hein, parce qu'elles se sont trop hydratées. Donc, il faut boire beaucoup, mais pas tout le temps non plus. Et puis, évidemment, on évite l'alcool, les bières, le rosé, le spritz, le pastis, ce que vous voulez. Et puis, toutes les boissons sucrées, je sais bien ce que disent les pubs.
Un tropico, coco.
Tropico, c'est trop.
Fruité. Rafraîchissant.
Mais ça ne désaltère pas et ça ne rafraîchit pas. Il faut boire de l'eau. Si vous en avez marre, vous prenez de l'eau gazeuse ou alors encore de l'eau de coco. C'est peu sucré et ça aussi, ça rafraîchit.
Ah bah voilà, celui-là, je ne le connaissais pas, ce conseil-là. Ok, un petit verre d'eau de coco sous le drap avec le pyjama. C'est ça le.
En pige léger. Hein,
après une douche tiède.
Ouais.
Voilà pour.
C'est bien.
Les bons conseils.
Bon élève, Charles Mania.
J'ai tout noté. Merci, maîtresse Anaïs. Il est 5h27 sur RMC. C'est l'heure de vous faire gagner.
RMC, la voix du jour.
Et c'est Yves qui est à Paris et qui a été le plus rapide ce matin pour jouer à la voix du jour. Bonjour Yves.
Bonjour à toute l'équipe.
Bonjour Yves, comment ça va ce matin ?
Eh bien écoutez, ça va très très bien. Je dois dire que la personne qui a parlé, j'ai travaillé à l'endroit où elle travaille. Donc mon premier ministre, c'était Giscard d'Estaing et donc je les ai tous connus.
Ah mais alors Giscard attendez, Yves.
On va réécouter la voix du jour.
Voilà, on va quand même réécouter l'extrait avant d'avoir la réponse Yves.
Le taux du livret A augmentera. C'est ma priorité absolue aujourd'hui. Je prends l'engagement ce matin que le taux du livret A augmentera pour les millions de Français qui ont un compte livret A.
Alors Yves.
Eh bien écoutez, c'est Bruno Le Maire.
Bravo Yves.
Vous avez gagné le tote bag RMC, la tasse des grandes gueules, le t-shirt du Super Moscato Show et le livre Génération After Food. Bravo.
On va vous envoyer tous ces cadeaux.
Écoutez, merci de votre gentillesse et continuez. Vous nous faites bien profiter des informations et de la vie d'RMC.
Eh ben exact. Alors là, Yves, vous pouvez pas mieux le résumer. Voilà, on est ravis de vous informer, mais aussi de vous accompagner. Voilà, dans la bonne humeur,
exactement,
de vous réveiller le matin, et encore plus ravis ce matin de vous récompenser, Yves. Je sens que vous êtes un fidèle, un lève-tôt.
Ah bah oui, ça, un lève-tôt.
Et on vous envoie tout de suite tous vos cadeaux. Ne quittez pas, Yves. On va prendre vos coordonnées hors antenne, et puis la voix du jour revient évidemment lundi pour récompenser les lève-tôt. Allez, 5h29, la météo approche. Mais d'abord une petite info. Quelle info musicale,
ouais, Anaïs. Je sais que t'es fan. Notre-Dame de Paris chantait cette semaine à Broadway. Tu te souviens évidemment, 24 ans après sa création. Eh bien, elle est jouée en ce moment à New York. Elle
avec
a fait
Patrick
le
Fury.
Tour du monde. Non. Changement d'équipe évidemment. Il n'y a plus Patrick Fiori, il n'y a plus Garou, il n'y a plus Hélène Segarra. Il y a cette équipe-là, écoute.
C'est un beau contour inventé pour elle.
Déçu. Bon non, c'est une autre version, il faut se mettre à jour.
Ouais, il y a 12 représentations au total, et la première a été ovationnée.
Mais évidemment, Belle à Broadway, on voulait vous le signaler, ce matin, un petit cocorico ce matin sur RMC. 5h29, la météo, Géraldine de Mauri.
RMC, jusqu'à 6h,
Charles Matin.
Bon réveil à tous sur RMC, le journal de 5h30 vous est présenté par Quentin Vinet. Bonjour Quentin.
Bonjour à tous. Ce nouvel incendie dans les Bouches-du-Rhône à Tarascon, 1000 hectares partis en fumée, le feu fixé, nous disent ce matin les pompiers. En Gironde, par contre, la situation n'est toujours pas sous contrôle. Ce sont plus de 5300 hectares qui ont brûlé et 4000 nouveaux évacués. Et puis ce drame hier soir à Cholet, 2 morts dans un accident de feu d'artifice.
Et une nouvelle rassurante ce matin, c'est que le feu est fixé dans les Bouches-du-Rhône.
Alors fixé, ça veut dire qu'il ne progresse plus, nous disent les pompiers qui luttent depuis hier après-midi sur ce feu dans le massif de la Montagnette, près de Tarascon, à la limite avec les trois départements, Bouches-du-Rhône, Vaucluse et Gard. Un feu qui a ravagé environ 1000 hectares de végétation et qui est parti, selon le porte-parole des sapeurs-pompiers sur place, Stéphane Guillot, eh bien d'une étincelle d'un train de marchandises.
Ces feux ont pour origine une mise à feu avec un train qui est passé à proximité des massifs. Donc nous faisons face à trois départs de feu dans le massif de la Montagnette. C'est forcément une opération délicate puisqu'on fait face forcément à des montagnes qui sont couvertes de végétation et avec plusieurs villages qui sont concernés. Donc notre priorité, comme je l'ai dit, c'est avant tout de protéger les habitations qui se trouvent à proximité des massifs en espérant que les gens aient bien réalisé les obligations de légal et de débroussaillement pour qu'on puisse les protéger efficacement.
Allez, sur la côte atlantique, en Gironde, les deux gros incendies ne sont toujours pas maîtrisés. Ils ont brûlé 5300 hectares de forêt. Le feu est reparti même à Landiras au sud de Bordeaux et il s'est étendu autour de la dune du Pilat avec l'évacuation hier après-midi de 4000 habitants et vacanciers à Cazaux, c'est à côté de la Teste de Buch. Le port de plaisance de cette commune a même été touché par les flammes. Le vent complique le travail des pompiers qui essayent de sauver les maisons depuis hier. Des pompiers qui reçoivent le soutien des habitants, nous dit Rémi Inc sur place pour RMC.
Ils sont nombreux, ces habitants, à venir apporter du réconfort aux pompiers. Julien, par exemple, amène
un peu d'eau, du pain, des boissons énergisantes, tout ça.
Et un mot de soutien pour ceux qui se battent pour sa forêt.
Moi, je sais que je vis toute l'année ici, on passe beaucoup de temps dans cette forêt. En plus, on est juste derrière. Ouais, c'est triste, c'est chez nous, quoi.
Julien, rapidement rejoint par d'autres, comme Denis, qui vient lui aussi offrir boissons et gâteaux aux pompiers.
À notre petit niveau, on essaye de faire comme ça. On sait qu'il va y avoir pas mal de rotations. Et je pense qu'aujourd'hui, les pompiers, ils en ont bien besoin.
Et les professionnels s'y mettent aussi. Stéphane Paye est restaurateur et tous les soirs, entre deux services, il prépare 450 sandwichs pour les pompiers. 2000 euros dépensés et un message à faire passer.
On est quand même dans un pays de plus en plus individualiste et égoïste. Et de voir effectivement des élans de générosité, c'est quand même très bien. Il faut simplement que ça dure parce que là, aujourd'hui, il y a beaucoup de fumée, tout le monde le voit. Ce feu-là, comme l'ont dit plusieurs pompiers, il y en a au minimum pour 15 jours, voire plus, avant d'arriver à une extinction totale. Donc, il faut savoir que la générosité, il faut qu'elle dure un peu longtemps dans ce cas-là.
Environ 500 pompiers se battent contre les flammes à la Teste de Buch. Des renforts sont encore attendus aujourd'hui.
Et ces incendies sont un désastre écologique lié au réchauffement climatique. C'est ce que dit ce matin le maire d'une des communes touchées dans le Sud-Est. Et ce matin, RMC est à Bargemont, dans l'arrière-pays du Var, commune où, à cause de la sécheresse, eh bien, les habitants, écoutez bien, ne peuvent même plus boire l'eau du robinet, nous dit sur place Kenza Samori pour RMC.
À Bargemont, l'eau n'est plus potable depuis une dizaine de jours. Les nappes phréatiques sont à sec. L'eau apportée par les camions-citernes est trop chlorée. Alors, la mairie distribue des bouteilles. Véronique, une habitante, a dû s'adapter.
On nous a dit qu'il fallait pas se brosser les dents, il ne fallait rien faire. Même les animaux, on leur donne de l'eau de cristalline, en fait. Alors moi, j'achète plus de légumes, je prends plus que du surgelé. Comme ça, il n'y a plus besoin de laver les légumes.
Même chose dans les commerces. Dans la cuisine du restaurant de Christophe Andrietto, sur la place du village, l'ingrédient principal, c'est la bouteille d'eau.
Pour cuisiner, on a fait de la pâte à pain, on est obligé de faire avec de l'eau en bouteille. Que ce soit les carafes d'eau, que ce soit le café, toutes les préparations, les sauces, les cuissons.
Le problème est que certains habitants ne suivent pas les mesures de restriction d'eau, ce qui agace l'adjointe au maire Magali Léris.
Ça met en colère. On met des amendes aux gens qui laissent l'eau couler pour remplir la piscine et ça déborde. Il y en a sur la route. Il y a des gens qui arrosent malgré tout leur gazon, comme si on était une région où on a du gazon. C'est complètement ridicule.
Et pour ce prix sur le fait, l'amende, c'est 1500 euros.
La soirée du 14 juillet a viré au drame à Cholet dans le Maine-et-Loire. Un garçon de 7 ans et sa sœur de 24 sont morts, victimes d'un accident de tir. Peu après 23 heures, des vidéos de l'accident circulent sur les réseaux sociaux et on voit un mortier qui termine dans la foule. Une troisième personne est blessée. Ce 14 juillet avait commencé par la parade militaire sur les Champs-Élysées à Paris, suivi de l'interview du président Emmanuel Macron qui a promis d'accélérer vers le plein emploi avec un nouveau texte pour réformer le travail dès cet été. Et il a appelé à la mobilisation générale en demandant aux Français de réduire leur consommation d'énergie pour faire face aux risques de pénurie liée à la guerre en Ukraine. Mes questions, Pierrick Bonneau, au service politique à RMC, quelle est la solution ?
Plusieurs mesures sont déjà incluses dans le code de l'énergie. Pas de chauffage au-dessus de 19 degrés dans les bureaux et les établissements recevant du public et pas de climatisation en dessous de 26 degrés. Pour aller encore plus loin, le gouvernement envisage de rénover les bâtiments publics ou encore d'installer des capteurs de présence pour éteindre la lumière quand une pièce est vide. La CPME suggère pour sa part de créer un outil numérique pour permettre aux entreprises de savoir où précisément faire des économies. La Fédération du commerce et de la distribution propose de son côté de réduire d'au moins 1 degré la température dans les magasins ou tout simplement de mieux respecter les règles existantes, notamment l'obligation d'éteindre les vitrines lumineuses après 1h du matin. Un plan détaillé secteur par secteur doit être présenté fin septembre.
C'est confirmé, le taux du livret A va doubler au 1er août, comme en février, passant de 1 à 2% nettement moins que l'inflation à 5,8%. C'était moins spectaculaire que mercredi sur le Tour de France. L'anglais Tom Pidcock est devenu hier le plus jeune vainqueur de l'histoire à l'Alpe d'Huez. Les Français eux étaient à la peine. Romain Bardet termine à 19 secondes des meilleurs. Il retombe à la 4e place du général. Et comme on s'y attendait, le Slovène Tadej Pogacar a attaqué. Mais le Danois maillot jaune Jonas Vingegaard a bien résisté.
Aujourd'hui, c'était une journée super dure. Il faisait super chaud en bas de l'Alpe d'Huez. Tadej m'a attaqué plusieurs fois sur la fin, comme je m'y attendais. Mais heureusement, j'ai pu le suivre à chaque fois et je suis très heureux.
Et le Tour de France va quitter les Alpes aujourd'hui en se lançant, alors ça va être long, dans la grande traversée de la France vers les Pyrénées. 13e étape aujourd'hui, 193 km entre le Bourg d'Oisan et Saint-Étienne.
Et puis le Quintet Quentin, aujourd'hui c'est Cabourg.
À 20h15, RMC Découverte, le 3, le 7, les pronos de la Dream Team des courses, le 3, Forever Stone en favori, le 7, Écrin du Léon en outsider.
Le 3, le 7, ouais, Forever Stone, Écrin du Léon. J'aime toujours, moi, les noms des...
Ah ouais,
des, ouais du Quintet.
Moi, j'aime moins, mais
toujours
bon,
poétique. Okay. Ah bah si, moi, j'aime bien. Peut-être ça me fait un peu voyager.
D'accord,
ok. Ça change, moi, j'adore.
C'était moi, je me demande d'où vient leur imagination, quand même.
Oui, c'est vrai. C'est vrai que ça... bah, c'est pour ça que j'aime bien, parce qu'on est toujours surpris. Voilà, tous les matins, le Quintet avec Quentin et le journal complet. À 5h38 sur RMC, on va parler sport, mais pas cycliste, non. Ce matin, on va mettre à l'honneur les filles du foot, nos bleus qui ont brillé hier soir.
La story sport.
Avec Cédric Danteville. Bonjour Cédric.
Bonjour.
L'équipe de France féminine a donc battu la Belgique 2-1 hier soir. Les voilà qualifiées pour les quarts de finale de l'Euro 2022. Ça, c'est la bonne nouvelle. Bon, il y a une mauvaise nouvelle. Hier soir, la star de l'équipe de France, Marie-Antoinette Katoto, s'est blessée.
Et oui, comme quoi l'air du 14 juillet ne réussit décidément pas aux Marie-Antoinette. On approche du quart d'heure de jeu hier soir. La numéro 9 française arrête sa course, se touche le genou et s'effondre sur le terrain.
14e minute de jeu, le genou droit de Katoto à surveiller, hein. Il va y avoir changement.
Elle boite très très fortement, elle a du mal à poser le pied droit, Marie-Antoinette Katoto, elle souffre, elle grimace là.
Marie-Antoinette Katoto doit quitter ses partenaires, elle ne réapparaîtra qu'en deuxième mi-temps.
Et Marie-Antoinette Katoto qui vient tout juste d'arriver sur le bord du terrain avec des béquilles et une énorme poche de glace sur le genou droit.
Voilà, un genou déjà douloureux. Katoto jouait d'ailleurs avec un strap après avoir pris un coup la veille à l'entraînement. L'inquiétude est donc de plus en plus grande dans le clan français. Et à la fin du match, la sélectionneur, il faut dire comme ça, Corinne Diacre, livre un premier diagnostic.
Je suis pas docteur. Elle s'est blessée, il me semble, en début de match. Pour le moment, c'est une entorse du genou. Non, hier, elle s'est pris juste un coup. Aujourd'hui, c'est une entorse. Donc, rien à voir. Mais par contre, effectivement, c'est sur le même genou.
Voilà, la joueuse doit passer aujourd'hui des examens pour confirmer ou pas cette entorse.
Bon, on va suivre ça. Ça serait un coup dur ou pas pour la suite de la compétition si on la perdait?
Ah, ce serait un énorme coup dur. D'ailleurs, on a vu tout de suite le dépit de Corinne Diacre hier qui va peut-être devoir faire sans son atout offensif numéro 1.
Et maintenant, que vais-je faire?
Et oui, que faire maintenant pour la sélectionneur? Parce que Marie-Antoinette Katoto, c'est la superstar de l'équipe de France. 26 buts en 32 sélections. C'est la Kylian Mbappé au féminin. Écoutez d'ailleurs comment le champion du monde parlait d'elle il y a 3 ans lors d'une interview croisée.
Marie est impressionnante parce qu'elle est vraiment typiquement l'attaquante moderne qui est capable à la fois de rester en renard des surfaces mais aussi de pouvoir participer au jeu. Techniquement, elle est à droite. Elle est capable de prendre la profondeur. Donc c'est top.
Comme Mbappé et Katoto à 23 ans, elle vient de prolonger son contrat au PSG après un long suspense. Comme Mbappé toujours, Katoto a terminé la saison meilleure joueuse et meilleure buteuse du championnat de France.
C'est vrai que c'est peut-être une très belle saison, l'une de mes meilleures. Vous savez, le foot, c'est toujours de la remise en question. Tu veux toujours plus. Et ça m'a vraiment permis de passer un cap. J'attends vraiment de moi de passer vraiment d'autres caps.
Et pour passer donc encore un nouveau cap, il y a justement cet Euro 2022, la première grande compétition internationale de catoto avec les Bleus. Reste à connaître la durée de son indisponibilité. La France joue son quart de finale dans 8 jours. Le compte à rebours est lancé pour sauver non pas la tête, mais le genou de Marie-Antoinette.
Non mais la pauvre.
Quoi ?
Elle doit en avoir marre.
Des vannes sur son prénom.
Bah oui.
Oui, bah c'est comme ça.
Bah, j'ai essayé de pas faire trop lourd.
J'ai aimé. C'est vrai que je le dis, j'ai aimé et on croise les doigts pour le genou de Marie-Antoinette Katoto. Et 8 jours, bah ça dépend de la blessure en fait. Hein.
C'est ça. On attend évidemment le verdict aujourd'hui.
Attend le verdict et puis on espère qu'avec ou sans Marie-Antoinette, bah les Bleus s'en sortiront. Évidemment, on sera derrière elle pour ce quart de finale et puis la suite. On peut rêver grand pour cette Euro 2022 de foot féminin qu'on suit évidemment sur RMC et notamment tous les matins dans la Story Sport. Merci Cédric Danneville. À 5h42, on revient à notre débat du jour ce matin. Après cette déclaration hier d'Emmanuel Macron qui annonce une nouvelle réforme du travail, de l'assurance chômage, parce que selon lui, certains profiteraient un peu de la solidarité nationale, profiteraient du chômage pour faire le point sur leur vie, dit Emmanuel Macron, réfléchir à leur vie, entre guillemets. Ce serait une manière, de profiter de la solidarité nationale. Est-ce que le chômage est trop généreux en France? On vous pose la question ce matin. Est-ce que c'est ça la solution pour répondre à la pénurie de main-d'œuvre, durcir les conditions de l'assurance chômage? On va poser la question à Ismaïl, qui nous appelle de Marseille. Bonjour Ismaïl.
Oui, bonjour.
Comment ça va d'abord, Martin Ismaïl?
Bah, écoutez, ça va très bien. Je vous écoute en ce moment. Pendant un mois, ça va faire toutes les nuits que je vous écoute.
Ouais.
Parce que je travaille de nuit. Et du coup, voilà, je me suis dit, je vais intervenir.
Ah, bah, vous avez bien fait. Excellent réflexe, Ismaïl, quand ça vous fait réagir. Vous composez le 32-16. Vous travaillez dans quel domaine?
Alors, en fait, je suis employé polyvalent à une station de service.
OK.
Je ne citerai pas la marque. Et voilà. Donc, je fais un peu tout. Ouais, je m'occupe de tout ce qui va être relation avec les clients, donc je leur vends les produits et en même temps je leur débloque les pompes pour l'essence. C'est pas grand chose, mais
oui, mais vous êtes là la nuit et mine de rien c'est important parce que c'est pas toujours le cas dans les stations service la nuit notamment. Et donc voilà, c'est tout. Moi j'aime toujours quand il y a encore de l'humain, voilà, dans les stations service la nuit. C'est grâce à vous Ismaïl, donc ça permet de vous saluer. Et alors ce qui vous a fait réagir ce matin, bah c'est cette déclaration d'Emmanuel Macron hein, qui voudrait, on l'entend, durcir les conditions du chômage parce que certains en profiteraient. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Ismaïl?
Ben, en fait, je sais pas jusqu'où il veut aller, parce qu'en soi, ils les ont déjà plus ou moins durcis.
Oui.
Maintenant, pour avoir droit au chômage, il faut déjà avoir travaillé 6 mois minimum.
Oui.
Pour ensuite avoir 6 mois de chômage derrière. Donc, en fait, en soi, c'est nos droits. Et moi, par exemple, j'ai déjà été au chômage, j'ai même déjà été au RSA. Donc, je vivais en Arles. Donc là-bas, il va y avoir quoi? Il va y avoir l'agriculture ou tout ce qui va être logistique. Donc, les usines ou sinon être sous le soleil. Donc c'est du travail comme les autres, il y a pas de souci, mais c'est juste que voilà, généralement c'est de l'intérim. Donc on va vous appeler pour faire 2-3 jours, après on va pas vous appeler. Vous allez peut-être venir faire une matinée, après vous allez rentrer chez vous. Donc j'ai toujours été disponible sur les boîtes d'intérim pour essayer de travailler. Donc voilà, généralement je finis mon mois, j'ai moins que si je travaillais un mois complet quelque part comme là actuellement. Je suis employé polyvalent, je suis en CDI, je suis heureux. À force d'avoir persévéré, j'ai réussi à trouver un CDI. Et surtout que j'ai même pas trop qui est au top, c'est rare.
Vous avez raison de le souligner. Voilà. Mais oui, il faut le dire quand ça marche aussi. Mais oui.
Voilà, il faut le dire. Vraiment, dès qu'on a des bons patrons qui sont au top, il faut le dire. Moi, je comprends pas qu'on puisse nous traiter, nous, les chômeurs, quand on est chômeur de fainéants ou quoi que ce soit, ou qu'on n'a pas envie de travailler. Franchement, j'ai tout fait. J'ai fait de la restauration, j'ai été en logistique, j'ai été dans l'agriculture. J'ai fait tout. À chaque fois qu'il y avait un poste, je me mettais devant pour essayer de prendre le poste en premier. Surtout quand on a 20 offres d'emploi, enfin, on a 20 demandes pour 2 offres d'emploi, c'est compliqué. Quand vous allez sur le site de Pôle emploi, vous verrez bien que voilà, moi, j'étais aussi comme.
Mais là, en ce moment, vous entendez Ismaïl, tous ces restaurateurs, tous ces patrons qui disent j'arrive pas à recruter parce que les gens préfèrent rester au chômage que venir bosser pour moi.
Ah non, pas du tout. Je comprends ce qu'il veut dire, mais quand on est dans la restauration, c'est très difficile. On se lève le matin, parce que je l'ai fait, j'ai travaillé dans la restauration normale, donc dans les vrais restaurants, et aussi pour, je vais citer la marque, Areas, deuxième restauration mondiale, donc sur autoroute, etc. Je peux vous dire que les conditions de travail sont vraiment très, très, très compliquées. Donc, tout l'été, on est là, on bosse, on travaille des 12 à 14 heures par jour, d'accord, à fond. Et le pire, c'est qu'on n'a pas d'heure sup, on n'est pas payé en heure sup, quoi que ce soit. On va nous donner nos repos en hiver, lorsque ce sera plus posé. Ben, en attendant, on est payé comme tout le monde au SMIC ou quoi que ce soit.
Ben, on en revient toujours à ça, en fait. C'est toujours le problème des salaires. Les salaires qui ne sont pas assez élevés, s'ils étaient plus élevés, ça inciterait les gens à davantage bosser.
Ben, déjà, oui, les conditions. Parce qu'en soi, quand on prend une personne qu'on va l'épuiser toute la saison, comprenez que des fois, ben, psychologiquement parlant, ça, c'est stressant, c'est épuisant, et donc il faudrait plus de monde aussi. Moi, je comprends qu'ils galèrent à recruter, mais c'est sûr que si on augmentait les salaires, ben, il y aurait déjà plus de demandes. Et après, je comprends aussi que pour le patronat, c'est compliqué de leur d'augmenter à chaque fois les salaires. Donc, il faudrait trouver un juste milieu, donner envie de venir travailler, donner des congés payés, par exemple, au lieu de dire non, tu auras tes congés, mais qu'en hiver, quand
oui, donc c'est une question de conditions de travail, de salaire, voilà. En tout cas rendre le travail plus attractif plutôt que durcir les conditions du chômage. C'est votre message ce matin, Ismaël. On vous remercie d'être venu témoigner parce que oui, moi c'est la première fois que je vous entends sur RMC. Vous nous dites je vous écoute, mais c'est la première fois que vous appelez. Bah vous avez bien fait. Ouais, vous voyez ce matin. Et ben vous avez osé et vous avez très bien fait ce matin, Ismaël. Et on est ravis de vous entendre. J'en profite pour vous saluer parce que vous avez l'air d'être un des courageux de la nuit dans votre station-service et on l'entend, un courageux du boulot tout simplement. Ismaël, tiens, j'en profite, comme c'est votre première, je vous envoie un t-shirt RMC, ok? Vous quittez pas, on va prendre vos coordonnées hors antenne, on vous envoie un t-shirt, ok?
Merci beaucoup, c'est gentil.
À très vite, Ismaël, bon courage.
Je peux laisser une petite dédicace à ma mère et à ma collègue de travail là, qui est en train de voir les clients pendant que je vous parle au téléphone, grâce à elle.
Eh ben, on salue la collègue et la maman, toute la famille. À bientôt, merci. Ismaël, au 32-16. Et vous faites comme Ismaël, vous venez témoigner ce matin au 32-16. On va poursuivre ce débat. Est-ce que le chômage est trop généreux en France? Est-ce qu'il faut durcir les conditions de l'assurance chômage pour répondre à la pénurie de main-d'œuvre? Vous venez témoigner avec Nicolas Poincaré qui s'installe dans quelques minutes aux commandes d'Apolline Matin. Ce sera dès 6h sur RMC. Mais tout de suite à 5h48, deux rendez-vous. Bah tiens, on parlait d'Emmanuel Macron, on va parler politique dans un instant avec le journal du Off de Cyprien Pézril. Bonjour Cyprien.
Bonjour Charles.
Au sommaire ce matin.
Charles Anaïs, est-ce que vous êtes déjà allé toquer à la porte de votre député dans sa permanence?
Non.
Bon, il y a des milliers de Français qui le font chaque année. Oui. Le problème, c'est que les députés ont du mal à trouver des locaux pour les accueillir.
Ah oui, donc député cherche local dans un instant. Et puis Anthony Morel, bonjour.
Bonjour.
Déjà demain.
Ouais, on va décoller aujourd'hui, c'est grand départ en vacances, mais on va décoller dans un avion un peu particulier, il n'y a plus de pilote à l'intérieur.
Je serai peut-être pas là.
Anthony va nous faire préférer le pain dans un instant sur RMC.
RMC, 4h36h,
Charles Matin.
5h50, on fait le point sur les trois infos à la une, Anaïs.
Ce matin, ces deux feux de forêt toujours en cours en Gironde avec plus de 5000 hectares brûlés. 1000 pompiers sont mobilisés au sud d'Avignon vers Tarascon. Le feu a été fixé mais 300 sont partis en fumée. Écoutez la réaction de Jean-Christophe Daudet, le maire de Barbantane. Il est très énervé.
C'est une forêt qui n'avait pas été impactée par le feu depuis 40 ou 50 ans, pour laquelle je veillais comme la prunelle de mes yeux. Tant qu'on continuera à ne pas faire attention, on va continuer malheureusement à jouer à l'apprenti sorcier.
Un garçon de 7 ans et sa sœur de 24 ans tués hier soir lors d'un feu d'artifice à Cholet. Le procureur de la République d'Angers parle d'un accident de tir. Une troisième personne a été gravement blessée. Et puis le taux du livret A va doubler au 1er août. Il va passer à 2%. Le livret d'épargne populaire sera porté à 4,6%. On y revient dans le journal de Céline Kallmann.
Et puis Géraldine Demory, il va faire encore chaud aujourd'hui, en tout cas au sud.
Oui, alors ça va être la journée la moins chaude de cette canicule. Et pourtant, on attend jusqu'à 39 degrés à Perpignan cet après-midi, 38 à Toulouse, 37 à Marseille, 36 à Bordeaux, 33 à Lyon, mais 28 à Paris, 25 à Lille. Je rappelle que 11 départements sont toujours en vigilance orange canicule entre le sud-ouest, la vallée du Rhône et les Alpes de Haute-Provence.
5h51 sur RMC, on file dans les coulisses de la politique.
RMC, Charles Matin,
le journal du Off.
Avec Cyprien Pézril du service politique d'RMC. Bonjour Cyprien.
Bonjour Charles, bonjour à tous.
Les députés sont en pleine recherche immobilière. Ils recherchent des permanences parlementaires.
Oui, c'est le local qui permet d'accueillir ses administrés et d'avoir des bureaux en circonscription. Franchement, c'est la galère pour trouver, m'explique un député En Marche qui vient d'être réélu. Il doit changer de permanence, mais il bute au téléphone, il déplore. Je ne suis même pas monté à Paris cette semaine parce que les recherches me prennent un temps fou. En cause, la crainte des dégradations pour les propriétaires et les assureurs qui rechignent à louer ou à assurer. Le même député poursuit les black blocs et les gilets. Donc, à ces 5 fois ma permanence ces dernières années, 5 fois il a fallu repayer la devanture vitrée à 4000 euros. Alors, forcément, oui, ça refroidit.
Mais il cherche des solutions parce qu'évidemment, c'est important d'avoir ces locaux.
Oui, et toujours ce député En Marche qui maintenant veut des bureaux en étage, sans vitrine, pour être plus discret et moins exposé aux dégradations. Mmh. Un autre élu socialiste me raconte avoir trouvé lui une solution. Je récupère la permanence de mon prédécesseur et ça se passe comme ça depuis les années 80 dans ma circo. Voilà la parade qu'il a trouvée. La recherche est en revanche plus compliqué pour les parlementaires de grandes villes avec des loyers très élevés, notamment à Paris. Pour l'explication, en fait, chaque mois, les députés reçoivent une enveloppe de 5 300 € de frais de représentation, donc en plus de leur salaire. Et c'est avec cette enveloppe qu'ils louent leur permanence, mais pas que. Moi, je ne veux pas dépenser plus de 700 € de loyer. Je veux utiliser le reste de l'enveloppe pour financer des événements réguliers dans ma circonscription, précise un élu de banlieue parisienne. Enfin, d'autres ont des solutions plus radicales, tout simplement ne pas prendre de permanence, comme me prévient un député parisien. J'ai regardé, si j'en veux une facilement accessible et qui ne soit pas minuscule, il faut compter 4 000 €. Ce député a donc décidé de faire des permanences itinérantes ou même de recevoir ses concitoyens en mairie.
C'est peut-être ça la solution, c'est d'aller même au-devant de ses concitoyens, d'être dehors, de se déplacer, d'aller à leur rencontre plutôt qu'attendre au fond d'une circonscription.
Et c'est de l'argent public.
En étage, sans vitre, comme le dit ce marcheur qui veut des bureaux en étage, sans vitrine, pour être plus discret. Je vois pas l'intérêt d'avoir une permanence cachée, autant être dehors plutôt que payer un loyer. C'était le journal du off avec Cyprien Pézeril et tout le service politique d'RMC à 5h53. Eh ben, on va décoller.
RMC, c'est déjà demain.
Bonjour Anthony Morel.
Bonjour.
Tu nous proposes ce matin un avion un peu particulier, sans pilote.
Y a-t-il un pilote dans l'avion ? Bah, peut-être plus pour longtemps. L'avion de demain, l'avion de ligne, hein, celui que vous prendrez pour partir en vacances par exemple.
Celui que va prendre aujourd'hui Anaïs.
Exactement.
Pour lui souhaiter de bonnes vacances, puisque Anaïs est sur le point, elle est déjà, c'est PNC aux portes là, depuis un quart d'heure.
J'ai un peu peur, Charles. Donc, non,
c'est pas celui-ci, ce sera plutôt dans quelques années évidemment, mais effectivement, ce sera un drone avec des passagers. Il n'y aura même plus de cockpit, plus de pilote. Tous les grands industriels travaillent sur le sujet, les Airbus, les Boeing, des start-up aussi. X-Wing, petite référence à Star Wars, moi j'aime beaucoup, qui a fait décoller le premier avion complètement autonome, c'est-à-dire du roulage jusqu'au retour en hangar, aucune intervention humaine. C'est qu'aujourd'hui dans un avion, franchement Anaïs, tu sais qu'il y a 90% du vol qui est déjà complètement automatisé. Simplement là, l'intelligence artificielle est capable de gérer aussi le décollage, l'atterrissage, et même si c'est un peu contre-intuitif, et ça va peut-être te rassurer, en fait l'idée c'est d'ajouter de la sécurité dans les avions. Il y a 80% des problèmes qui viennent d'une erreur de pilotage. Quand il y a un crash par exemple, c'est très souvent à cause d'une erreur de pilotage. Bah, tu te souviens par exemple la Germanwings,
c'était particulier,
c'est humaine.
Oui, voilà. La plupart du temps, c'est des origines humaines, donc du coup, ça permettrait d'ajouter de la sécurité.
Bon, moi, ça me rassure pas. C'est pour demain, quand même.
Oui, alors, ça va prendre un petit peu de temps. C'est vrai que la barrière psychologique, elle va être énorme à surmonter. Mmh. Cela dit, il y a une étude qui a été réalisée. On a demandé aux Français, est-ce que vous seriez prêt à voler dans un avion sans pilote au cours de votre vie ? Et 6 Français sur 10 répondent oui. Alors, le mot-clé, c'est quand même au cours de votre vie. C'est-à-dire que si on vous demande si c'était demain, je suis pas certain qu'on serait à 6 sur 10. Mais enfin, quand même, voilà, les gens se projettent. Ça va prendre quelques années. Mais enfin, faut se souvenir que ça va se faire par étapes. Hein. On est passé de 3 pilotes dans l'avion à 2. Un pilote et un copilote dans les années 80, ça avait fait débat d'ailleurs à l'époque.
Bien sûr.
Maintenant, on va passer de 2 à 1. Ça va bientôt arriver. Et ensuite, pourquoi pas de 1 à 0. Sachant qu'il y aurait quand même un pilote au sol pour superviser ce qui se passe dans le ciel. Enfin, c'est pas forcément très rassurant quand toi, t'es en l'air.
Mais qu'est-ce qu'on y gagne?
Peut-être des billets qui coûteront moins cher, et ça va être une des clés également, parce que ça permettrait évidemment de faire des belles économies. Je ne dis pas, encore une fois, on ne remplace pas l'homme par la machine, parce qu'il va y avoir des grosses pénuries de pilotes dans les années qui viennent. Ça va être aussi une manière d'y répondre.
Eh ben, on souhaite bon vol à Anaïs qui s'apprête à décoller en toute sécurité pour les vacances. Bonnes vacances Anaïs, et tout de suite sur RMC Airlines, c'est Nicolas Poincaré qui s'installe aux commandes de la matinale. Bonjour Nicolas.
Bonjour, on fera peut-être un jour une matinale radio sans pilote.
Ah, peut-être, dirigée par l'intelligence artificielle.
C'est une machine à la place de Charlemagne.
Ouais, pourquoi pas. Bah, elle sera sûrement moins marrante que moi, ça c'est garanti. Il y aura moins d'humains.
Ça reste à voir.
Bon, en tout cas, je rejoins tout de suite Nicolas aux commandes de la police matin. À tout de suite.